Ce soir-là, Adam dormait, après une belle journée, toute dorée comme une tartine. Il s'éveilla avec le chant du coucou, puisque la création a commencé par un printemps humide. L'année, depuis lors, commence ainsi. Il vit une jeune fille à ses côtés. Dans son bonheur, il s'écria « Ève ». Ève lui sourit. Adam lui donna un baiser. Le bonheur a ses habitudes. Ainsi, la joie fit son entrée dans le monde. Ève pourrait se travailler. Ce jour-là, Dieu se promenait dans le jardin plein de printemps à ras-bord. Il dit à Ève,
« Tu vois tous les arbres que j'ai plantés, ils sont à vous. Naturellement, tu peux manger à volonté des fruits de tous les arbres. Mais je me suis réservé celui-ci. Je l'ai planté en plein milieu puisque c'est mon arbre à moi. Je te demande de ne pas toucher à mes fruits. Prends garde, car tu mourrais. »
Ève promit de respecter la volonté de son Créateur. Elle jura même qu'elle surveillerait l'arbre de Dieu.
Oh, cet arbre de Dieu! Si vous aviez vu cet arbre!
Il n'y avait aucun doute possible. C'était bien un arbre venu du ciel. Tenez! Il ressemblait à un palmier, de loin, mais un palmier dans lequel nicherait le soleil. Les oiseaux eux-mêmes ressemblaient à des anges. Un palmier en forme de feu avec des flammes. Il semblait brûler jour et nuit comme la flamme des Jeux Olympiques. Il ressemblait encore à un paon avec un feuillage en forme de roue, avec des yeux partout. Dieu dit,
« Cet arbre me ressemble. Je suis celui qui voit partout. »
Le serpent était le plus malin de tous les animaux. Il pouvait marcher sous la terre comme le métro. Il faisait semblant de dormir juste au pied de l'arbre sacré. En réalité, il écoutait aux portes de l'arbre de la connaissance, l'arbre de Dieu. Il entendait toute la conversation. C'est très laid d'écouter ainsi. Quand Dieu fut parti, le serpent fit semblant de se réveiller, montra de beaux fruits juteux et dit, comme s'il était gentil,
« Mange de ce fruit. C'est un fruit magique. Tu sauras tout ce qui se passe sur la terre comme au ciel. Tu comprendras tout. Tu seras aussi savante que Dieu. Dépêche-toi. Tiens, mange. »
« Non. »
« Pourquoi ?»«
C'est interdit. Je mourrai. »
« C'est Dieu qui t'a fait peur. » Tu sais, tout à l'heure, je faisais semblant de dormir. Mais j'ai tout entendu. Dieu est très jaloux. Il sait bien que tu peux être comme lui. Vous, les habitants de la terre, vous pouvez être aussi forts que Dieu. Il te suffit de croquer cette pomme magique. Tu vois bien, elle est en or, comme le calice de la messe. Vide-la comme une noix de coco. Alors, je t'adorerai comme j'adore Dieu. »
Ève tendit la main, elle croqua la pomme. Hélas, le serpent avait menti.
Au paradis, un jour Ève, aperçu comme en un rêve, en train de se balancer, en train de se tortiller sur une branche de pommier. Un gros serpent à sonnette qui racontait des sornettes. Alors d'un air affolé, elle lui a déclaré, il est défendu d'en manger. Pourquoi vouloir croquer la pomme puisqu'il y a les fiancées dans ce jardin des abricots, des raisins, des noix de coco? Pourquoi quand on a la vie douce, que l'on peut se tourner les pouces, vouloir toujours ce qu'on n'a pas et ne pas aimer ce qu'on a? Mais le serpent est tenace, à la fin de guerre lasse, Ève se laisse attendre. pensée, elle se mit à goûter une pomme rouge et dorée. Comme elle la trouvait bonne, à son tour elle la donne au pauvre Adam qui se dit cette pomme est bien jolie, mais faut-il mordre dans ce fruit? Pourquoi vouloir croquer la pomme, puisqu'il y a ici en somme, dans ce jardin des abricots, des ricins, des noix de coco? Pourquoi quand on a la vie douce, que l'on peut se tourner les pouces, vouloir toujours ce qu'on n'a pas, et ne pas aimer ce qu'on a? Alors Dieu dans sa colère fit trembler toute la terre et chassa du paradis ceux qui ont désobéi. Le paradis, c'est bien fini. Depuis cette époque ancienne, afin que l'on s'en souvienne, il arrive qu'en été, quand le vent vient à souffler, on entend dessous les pommiers. Pourquoi vouloir croquer la pomme, puisqu'il y a ici en somme, dans ce jardin, des abricots, des raisins, des noix de coco? Pourquoi quand on a la vie douce, que l'on peut se tourner les pouces, vouloir toujours ce qu'on n'a pas, et ne pas aimer ce qu'on a? Pourquoi vouloir croquer la pomme, puisqu'il y a ici en somme, dans ce jardin?
Ce soir-là, Ève se sentit soudain seule et toute nue. Il lui semblait que tout le monde la regardait. Elle grelotta. Elle pleura. Ce furent les premières larmes du monde. Ève était toute jeune et jolie. Elle demanda un miroir et pleura encore parce que elle avait froissé son visage. Ève, cependant, fut encore heureuse car elle eut deux enfants. Toutes les mamans du monde ressemblent à Ève, la première dame du paradis. Toutes les mamans du monde portent leur enfant comme l'arbre porte son fruit, comme la fleur porte sa graine, comme l'étoile porte son feu. Un tout petit bébé, qu'elle place toujours à côté d'elle, exactement sur leur cœur. Pour que les deux cœurs se parlent à voix basse, naturellement. Elle lui donne le sein, des caresses et une chanson pour les endormir. Bientôt, le bébé ouvre les yeux. Il regarde, puis il dit
« Maman !»
Souviens-toi, David. C'est le mot le plus important.
Le plus important.
Répéta David pour se souvenir.
Et le serpent ?
Ce serpent, le premier du monde, avait la couleur de l'or. On le confondait donc avec le sable doré et plein de soleil. Personne ne le voyait, mais on entendait sa voix et on l'écoutait car il était très intelligent et il racontait de belles histoires. Dieu pourtant, qui voit tout, voyait le serpent qui faisait semblant de dormir.
Tu as menti, vilain serpent. Tu as trompé la première maman du monde. Tu as détruit mon paradis. Car je n'ai plus confiance. Oui, ton mensonge a brisé le bonheur de mon beau jardin. Je vais te punir. Tu seras le dernier des animaux. Pour que l'on t'entende venir, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la terre. Je dresse un mur entre toi et Ève, entre ses enfants et les tiens. Tu lui mordras le talon, mais elle t'écrasera la terre.
Dieu était irrité, triste surtout. Dieu dit alors à Ève,
« Ève, les mamans souffriront pour avoir des bébés, mais ensuite, elles seront heureuses parce qu'un petit être tout neuf leur dira, « Maman. »
C'est la parole de Jésus qui est ici rapportée. Il dit à l'homme :
Mon ami, tu devras désormais gagner ton pain pour toi et ta famille. Tu le demanderas à la terre par ton travail. Celle-ci te donnera parfois des épines et des chardons. N'oublie pas que tu viens de la terre. Tu t'appelles terrien. Tu es lié à cette terre dans laquelle il y a un morceau de paradis, c'est-à-dire un morceau de ciel. Comme le levain fait lever la pâte, le paradis fait lever la terre vers Dieu.
Dieu clôtura alors l'arbre de vie. Il posta deux chérubins, ce sont des hommes du ciel armés d'un rayon de lumière, qui montèrent la garde devant le palais de Dieu. Ainsi s'achève l'histoire du paradis. L'histoire des hommes de la Bible commence maintenant. Quelle aventure ! Quelle vie ! Il y a dans la Bible des animaux, des bergers, des soldats, des rois, des prestidigitateurs, des montagnes, des fleuves, une mer rouge, des pyramides, des tours, des déserts grands comme le soleil, des oasis, des troupeaux avec des petits agneaux tout blancs, et puis des fêtes, des danses, des chansons.
Et les autres mamans dans la Bible, est-ce qu'elles ressemblent à Ève, la reine du premier paradis ?
Naturellement, toutes les mamans sont belles, mon petit David.
Et le serpent, est-ce qu'il vit jusqu'à la fin de la Bible ?
Naturellement. À la dernière page, il est devenu grand et monstrueux. On l'appelle alors dragon, avec des écailles d'hippopotame et du feu dans le ventre qui lui sort par le nez. On dirait une baleine qui crache des flammes. Mais quand il voit la femme dans le soleil, il devient fou et se jette dans la mer.
David, qui connaît la Bible par cœur, sait bien comment ça finit. Ève, la première maman, eut deux enfants. L'aîné s'appelait Caïn, le plus jeune Abel. Les deux frères jouaient ensemble. Devenu grand, Caïn dit :
Je veux être agriculteur.
Adam, son père, lui donna un beau jardin au bord des quatre fleuves qui traversent le paradis. Dans ce jardin poussaient des arbres, des plantes et des fleurs.
Tu peux me dire le nom des arbres ?
Il y avait des oliviers, des acacias, des chênes, des figuiers et des palmiers dattiers. Il y avait encore des grenadiers qui font des fleurs rouges comme des coquelicots. Il y avait aussi un arbre qui ressemble au pin et qui produit de la résine sous l'écorce. Mais cette résine s'appelle l'encens. C'est un parfum qu'on brûle dans les églises. Les rois mages en apportèrent comme cadeau la nuit de Noël.
Il y avait des fleurs aussi dans le jardin de Caïn ?
Bien sûr. Il y avait des roses, des anémones, des aubépines, des chardons, des lys. Il y avait aussi un arbre qui se couvre de belles fleurs blanches. On l'utilise pour faire des huttes. Au bord de l'eau poussait aussi une plante qui fait des fleurs vertes et dont la tige sert à fabriquer du papier. La Bible a été écrite sur des feuilles de cette plante qu'on appelle papyrus. Caïn cultivait du blé pour faire du pain et du lin pour faire des vêtements. Caïn avait une maison toute blanche avec une cour et un puits au milieu de la cour. Le puits donnait de l'eau fraîche dans un abreuvoir de pierre pour les animaux de la ferme. J'oubliais que le soleil remplissait la maison et que la vigne grimpait tout au long de la façade. Chaque semaine, Caïn, le paysan, allait au marché porter ses légumes et ses fruits. Il choisissait auparavant les plus beaux fruits qu'il déposait sur une grosse meule de pierre avec un bouquet de fleurs. Ces fruits étaient offerts à Dieu. C'étaient des primeurs, c'est-à-dire les premiers fruits de la saison. Caïn faisait ainsi sa prière.
Dieu, je sais que tu nous donnes la pluie et le soleil. Tu nous donnes ainsi la vie. Je t'offre ces fruits, les premiers et plus beaux de mon jardin.
Abel, lui, devint berger. Il avait de grands troupeaux, mais aussi des mulets, des chameaux et des ânes. Il gardait ses troupeaux et allait loin, très loin, à perte de vue, avec des clochettes qui font de la musique. Abel surveillait ses moutons en se promenant à cheval, comme les cow-boys. Les agneaux naissent au printemps, les chevreaux aussi. Les ânesses et les chamelles font, dans l'herbe chaude comme un berceau, les unes un petit ânon avec de superbes oreilles,
les autres un petit chameau avec une bosse comme une toupie sur le dos. Abel allait vendre son petit bétail, ses agneaux et ses chevreaux, mais il choisissait toujours les plus beaux qu'il offrait à Dieu en disant
« Je sais que tu nous donnes le soleil et la pluie, ainsi poussent les prairies et les forêts. Je sais aussi que tu es le berger de la terre. Voici cet agneau et ce chevreau, les plus beaux de mon troupeau. »
Or, un jour, Caïn comprit que Dieu préférait l'offrande de son frère Abel. Dieu préférait l'agneau à son panier de fruits. Caïn fut jaloux dans son cœur et furieux dans son visage. Mais Dieu lui dit,
« Caïn, pourquoi deviens-tu méchant? Pourquoi surtout deviens-tu triste? Ne sais-tu pas que si tu es triste, c'est que ton cœur est déjà plein de mal? Le mal est caché derrière la porte de ton âme, comme un chien méchant. Il va te mordre, Caïn, si tu ne le chasses pas. »
Caïn était jaloux de son frère. Il demeura triste jusqu'au soir, à l'heure où rentrent les troupeaux. Il vit son frère revenir sur son petit cheval tout blanc. Et il dit comme ça, sans le regarder en face,
« Viens faire un tour. »
Les deux frères partirent au champ, à pied, en longeant le fleuve. Caïn ne parlait pas. Arrivé au petit bois de sycomores, les sycomores ce sont les figuiers. Caïn empoigna son frère et le tua. Aussitôt, il entendit une voix. C'était la voix de Dieu.
« Caïn, où donc est ton frère Abel ?»«
Je n'en sais rien. Est-ce que je suis chargé de garder mon frère comme le berger garde le troupeau ?»«
Qu'as-tu fait, misérable ? Le sang de ton frère a coulé jusqu'à moi. Je l'ai vu rougir l'eau du fleuve. J'ai vu la terre s'entrouvrir comme une bouche pour recueillir le sang de ton frère Abel. Cette terre te vomit. Elle refusera désormais de t'aider. Tu es condamné à marcher, Caïn, à marcher toujours, à rôder comme un Satan autour de la terre. »
Le premier n'avait en partage qu'un troupeau de moutons tout blancs, allant au gré des pâturages, et l'autre cultivait ses champs. Chacun croyant à sa manière, aimait le Seigneur lui offrit, comme l'on offre une prière, l'un ses agneaux, l'autre ses fruits. Il s'aimait bien, pourtant, avant, la triste jalousie allume la folie. Il s'aimait bien, pourtant, avant, ne se sont pas compris. C'est la guerre de pluie. Un jour Dieu regarda l'offrande que fit Abel de ses agneaux, croyant à de l'indifférence pour ses fruits et son vin nouveau. Caïn sentit une tempête de rage qui l'envahissait. Puisqu'ainsi le Seigneur me traite, dès demain je me vengerai. Il s'aimait bien, pourtant, avant, la triste jalousie allume la folie. Il s'aimait bien, pourtant, avant, ne se sont pas compris, c'est la guerre depuis.
entre les murs de sa colère. Qu'un la nuit ne dormit pas. Au matin, il dit à son frère, allons au champ comme autrefois. Et dans le champ de la vengeance, il tue Abel, puis il s'enfuit. Loin vers une éternelle errance, celle de l'homme qui se fuit. Il s'aimait bien, pourtant, avant, la triste jalousie allume la folie. Il s'aimait bien, pourtant, avant, ne se sont pas compris. C'est la guerre depuis.
Caïn, honteux, baissa la tête vers le sol. Il devint encore plus triste. Il se dit en lui-même,
« Je n'aurai jamais la force de porter ma faute. »
Puis il dit encore, en levant la tête,
« Seigneur, tu me chasses aujourd'hui de ce pays et de cette terre qui me donnait mon pain. Mais comment pourrais-je me cacher de toi? Tu me punis aujourd'hui en m'obligeant à marcher toujours, toujours comme un Satan. Me voici vagabond. Je devrais marcher sans jamais goûter au repos, sous un arbre ou sur la margelle d'un puits. J'ai peur. Car tu sais bien, celui qui me rencontrera me tuera. Pour venger mon frère Abel, ne suis-je pas coupable de la mort de mon frère ?
Mais Dieu ne voulut pas que les hommes se fassent justice eux-mêmes et qu'ils tuent leur frère.
Assez de sang !
Dit Dieu. Il fit une marque sur le front de Caïn. Ce signe voulait dire à tous ceux qui rencontreraient le criminel :
J'interdis qu'on lui fasse le moindre mal. La vie est à moi et je ne veux pas de vengeance.
Caïn le banni, sortit loin, très loin de la présence de Dieu. Il traversa la ville, mais personne ne porta la main sur lui, à cause du signe qu'il avait sur le front. Caïn, le vagabond, s'arrêta enfin dans un pays situé à l'est du grand jardin. Il prit une pioche et construisit une ville avec des murailles et de grosses portes qu'on fermait le soir.